Bonsoir. Province du Nord Kivu, 14 casques bleus tanzaniens et 5 soldats FRDC tués. C'est le bilan de l'attaque jeudi 7 décembre dernier à Semuliki, dans les territoires de Beni, d'une base de la MONUSCO par des présumés rebelles ougandais de la DEF. Le Sénat a déclaré recevable le projet de la loi électorale et l'a envoyé à la commission politique, administrative et judiciaire pour toilettage. Les divergences persistent toujours sur les trois points, à savoir les seuils d'éligibilité, la caution et la machine à voter. Tels sont les thèmes principaux de ce soir dans Tribune de la Presse. Nous avons autour de cette table Innocent Kaboukala, il est journaliste indépendant. Bonsoir Innocent Kaboukala.
Bonsoir Guy, bonsoir à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Nico Faye Mbikaï, journaliste et collaborateur au groupe de presse Le Monde, top média apparaissant à Kinshasa. Bonsoir Nico Faye Mbikaï.
Bonsoir Fergie.
Et Luc Malembe, correspondant de l'AFP à Bounia et directeur général du site web bouniaactualité.com. Bonsoir Luc Malembe.
Bonsoir Dumati, bonsoir aux deux confrères et à tous les auditeurs de Radio Capi.
Bienvenue à tous dans cette émission. Avant tout, on revient sur les sujets qui ont défrayé la chronique cette semaine. On écoute Alain Rung dans cette revue de presse.
Bonsoir. La presse de Kinshasa revient sur le lancement des manifestations pacifiques programmées par les catholiques et le sort qui sera réservé au projet de loi électorale au Sénat. Forum des Assemblées que jeudi, l'attention des Congolais est focalisée sur le Sénat et la nuit sur les paroisses d'où devraient retentir les sons de cloche. Le potentiel souligne que pour la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, la République démocratique du Congo est un patrimoine commun à tous les Congolais. Dès lors, les prélats catholiques sont convaincus que la RDC ne doit pas être prise en otage par une poignée d'individus juste pour leurs intérêts égoïstes, rapporte le journal. Actualité.cd de son côté révèle que Jean-Marc Kabound, secrétaire général de l'UDPS, a saisi officiellement l'hôtel de ville de Kinshasa au sujet de la marche du mardi 19 décembre 2017. Initiée par le rassemblement et portée par l'UDPS, cette manifestation a pour but, d'après ses initiateurs, de réclamer la tenue des élections en RDC, conformément à l'accord du 31 décembre 2016, note le site web. Le point de rencontre est fixé à l'échangeur de Limété à 9h, en suivant le boulevard Lumumba, l'avenue Saint-Louis, jusqu'au point de chute, le boulevard Triomphal à 15h, précise Dépêche.cd. Concernant toujours la loi électorale, lors de la plénière de mardi dernier, la loi électorale sous examen a été envoyée après débat directement à la Commission politique administrative et juridique, PAJ, pour enrichissement sans être soumise au préalable au vote de recevabilité de la plénière. Pour le journal Le Phare, il s'agit d'une première dans les us et coutumes parlementaires. Conformément au règlement intérieur, en effet, après le débat général sur une matière, un vote aurait dû être organisé pour déclarer recevable ou non recevable la matière débattue, explique le quotidien. De l'avis de la prospérité, la réplique du chef de l'intérieur aux questions des sénateurs a été magistrale. M. Chadari était à l'aise à l'estrade, répondant aux questions que 21 sénateurs lui avaient posées la veille, rapporte le journal. Dans sa réplique poursuit le quotidien, il a notamment rappelé aux sénateurs que le texte sous examen dans leur chambre était celui de l'Assemblée nationale et non celui du gouvernement, et qu'il revenait aux deux chambres d'harmoniser leurs vues afin de doter le pays de la loi électorale pour aller aux élections.
Merci Alain Irung, Innocent Kaboukala, journaliste indépendant. À part les deux thèmes de ce soir, quelle est l'actualité qui vous a paru intéressante cette semaine?
Bon, au courant de la semaine, j'ai appris, comme tout le monde d'ailleurs, la série de manifestations pour réclamer la tenue des élections, également la normalisation de notre pays par les prélats catholiques notamment. Les cloches qui doivent retentir tous les jeudis sur un mot d'ordre de la haute hiérarchie de l'Église catholique. Et donc j'essaie de comprendre, bien sûr comme tout le monde, que cet aspect des choses est une énième manière pour les Congolais à travers certaines structures comme l'Église catholique, qui on doit comprendre qu'elle fait toujours partie aussi de la société civile, en fait, parce qu'elle porte avec elle les aspirations des populations. Et donc, c'est une population qui se sent toujours abandonnée et qui voudrait voir le pays aller de l'avant, s'améliorer, notamment avec la question de la tenue des élections qui devient finalement un casse-tête pour les Congolais. Et c'est de cette manière-là que je comprends, mais en dehors de cela, bon, il y a quand même une autre petite actualité, c'est que nous-mêmes, nous avons été victimes. On n'en parle pas beaucoup, mais pourtant ça existe, c'est l'insécurité dans la ville de province de Kinshasa, notamment par l'attaque des véhicules communément appelés Ketch qui n'arrêtent d'héberger des Koulouna. Et moi-même, j'ai été victime, accompagné d'ailleurs d'un des beaux-frères, dans le quartier UPN, alors que c'est un quartier réputé résidentiel et que, en même temps, là, le patron de la police nationale habite dans le périmètre et que ces genres de choses se font sans que quelque chose ne soit fait, c'est quand même regrettable, malgré toutes les réclamations qui avaient été faites. La promesse également avait été faite pour renforcer la sécurité, mais jusque-là, rien n'a été signalé dans cette partie donc, de la ville.
Merci Nico Faye, journaliste collaborateur au groupe de presse Le Monde, top média paraissant à Kinshasa. L'actualité, c'est aussi la clôture au Parlement de la session de septembre.
Oui, merci beaucoup Guy pour l'opportunité que vous avez bien voulu encore nous accorder ce jour. Oui, vous savez, de coutume, il y a les sessions qui sont, je dirais, régulières et les sessions extraordinaires. Mais, comme toute chambre, elle avait commencé et ne peut que fermer, à moins qu'il y ait peut-être une matière à traiter qui peut être déclarée prioritaire. En ce moment-là, on peut envisager une session extraordinaire, mais s'il n'y a pas, on va clôturer la session.
Luc Malembe, correspondant de l'AFP à Bounia et directeur général du site web bouniaactualité.com. Quelle est l'actualité aujourd'hui dans la ville de Bounia?
Oui, merci Guy Mathieu de nous avoir associés à ce débat. En fait, à Bounia, en politique, l'actualité est dominée par la question orale avec débat qui a été transformée en interpellation du ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité à l'Assemblée provinciale par rapport à la multiplicité des barrières et perceptions illicites de taxes sur pratiquement toutes les routes de la province de l'Ituri. On dénombre aujourd'hui plus de 66 barrières du matin et dans ces 66 barrières sur les routes, on y trouve plus de 25 services qui rançonnent la population avec des taxes parfois illicites et illégales. Et donc, le ministre a été interpellé. Et les débats se poursuivent à l'Assemblée provinciale.
Merci, Nosaka Boukala. La presse est aussi endeuillée. Vous avez appris le décès d'un chevronné à la personne d'Amurita Mukayenga de la RTNC. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet? Il est mort depuis la semaine dernière.
Donc c'est encore une fois de plus, nous on n'aurait pas souhaité qu'on puisse mourir parce que les journalistes ont encore un grand rôle à jouer dans ce pays. Et c'est un papa pour nous, parce que déjà très jeune, nous avions l'habitude de le voir à la RTNC, alors qu'il n'y avait pas encore une pluralité des organes de presse. Et donc, c'était parmi des grands stars et que nous apprécions. Et notamment, sa manière de présenter le journal en langue swahili particulièrement. Et que, d'ailleurs, un de ses noms, c'est Amuri Tambwe Kaenga. Alors, Kaenga, c'est aussi le nom d'un des grands frères dans le quartier. Et donc, nous, ça nous faisait énormément plaisir, effectivement, de le suivre. Mais qu'est-ce que vous voulez, devant la mort, on s'incline et c'est comme ça la vie, et donc on continue. Et sinon, c'est un grand journaliste qui a laissé ses marques dans notre pays.
Nico Faye, un mot au sujet de la disparition de ces grands baobas, monsieur Amuri Tambwe Kaenga.
Oui, une spécie, vous savez qu'on peut manquer de termes pour exprimer la douleur qu'on ressent, mais ce que nous devons retenir est que la vie est l'œuvre de la mort et la mort est la vie, c'est le chemin à nous tous.
Luc Malembe, qu'est-ce que vous retenez de cette personnalité, M. Amuri Tambwe Kaenga?
Ah oui, c'est de la consternation dans la presse de l'Ituri lorsque nous avons appris la mort de ce grand confrère qui est mort. Et donc, moi, je ne le connais pas personnellement, mais je l'ai suivi des fois à la RTNT dans le journal Swahili. Et donc, c'est tout simplement regrettable qu'il soit participé. Voilà.
Merci. Notre premier thème de ce soir, province du Nord Kivu, 14 casques bleus tanzaniens et 5 soldats FRDC tués. C'est le bilan de l'attaque jeudi 7 décembre dernier à Semuliki dans les territoires de Beni d'une base de la MONUSCO par des présumés rebelles ougandais de l'ADF. Dans un communiqué, la MONUSCO a indiqué qu'une quarantaine de casques bleus ont aussi été blessés dans cet incident. La cérémonie d'hommage aux 14 casques bleus a eu lieu lundi dernier à Beni. C'était en présence du numéro 2 de la MONUSCO chargé des opérations, de l'ambassadeur de la Tanzanie en RDC et du commandant de la 3e zone de défense de FRDC. Un reportage de Martial Papi Mukeba.
Quelques minutes après le début de cette cérémonie d'hommage, 14 cercueils contenant les corps des casques bleus tués et couverts des drapeaux des Nations Unies et de la Tanzanie sont exposés devant les différentes personnalités venues rendre hommage à ces soldats de la paix. Prenant la parole au cours de cette cérémonie, le général Léo Mouchalé, commandant de la 3e zone de défense des FRDC, a loué l'engagement de ces casques bleus dans la lutte contre l'ADF en parlant d'un exemple à suivre par les FRDC.
Il n'y a pas un amour plus grand que celui de se sacrifier pour le bien-être de l'autre. Cet instant doit servir d'exemple exaltant à chaque soldat congolais. Cet acte combien louable sera inscrit dans l'histoire moderne de notre République. Vaillants combattants tanzaniens et compagnons d'armes, d'ores et déjà, cela réveille en nous la force de dire que nous n'oublierons jamais votre présence parmi nous, que nous n'oublierons jamais le travail combien louable, combien exaltant, combien noble que vous venez d'accomplir.
Signalons que le rapatriement des corps de ces casques bleus vers la Tanzanie est intervenu après cette cérémonie d'hommage. Béni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Merci Martial Papi Mukeba. À propos de cette attaque, des réactions continuent à tomber. Julien Paluku, gouverneur du Nord Kivu, propose qu'au-delà des opérations militaires, la question du ravitaillement des ADF soit prise en compte. Il souhaite qu'il y ait une brigade qui prenne en charge la frontière entre la RDC et l'Ouganda. Celle-ci aura pour mission de contrecarrer toute infiltration à partir de l'Ouganda. Julien Paluku est au téléphone de Sifa Maguru.
Primons, la brigade d'intervention soit dotée d'une certaine autonomie d'action sur le terrain et en lieu et place de cette grande machine administrative des Nations Unies. La deuxième manche du problème, c'est que au niveau de nos forces armées, effectivement, il faudrait que la brigade qui est arrivée sur le terrain pour devoir remplacer celles qui ont combattu il y a longtemps puisse également être en action avec toute la dotation nécessaire pour que la jonction de ces deux forces, de la brigade d'intervention et la brigade de FRDC, nous permette de mettre définitivement un terme avec l'occupation du terrain, c'est-à-dire de Beni à Kamango, pour qu'on se rassure que toutes les frontières ougandaises sont totalement contrôlées. Parce que la question qui est aujourd'hui soulevée, c'est l'approvisionnement de ces rebelles ZDF en armement, en médicaments et en logistique nécessaire. Et donc il est important qu'au-delà des affrontements, au-delà des opérations qui sont planifiées, qu'il y ait une autre brigade qui prenne en charge la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda.
Innocent Kabukala, journaliste indépendant, comment vous réagissez à cette énième attaque des rebelles de l'ADF?
Je pense qu'il y a quand même beaucoup de flou pour aborder cette question. Et je pense que l'analyse que je devrais faire, c'est qu'il y aura quand même un bon nombre de questionnements. Pour autant que jusqu'à présent, il n'y a pas encore une conclusion. Mais que nous avons la foi, parce que ici, au moins, l'enquête qui va être menée, c'est par les Nations Unies particulièrement. Et donc, nous pensons qu'il y aura toute la lumière possible sur cette question. Mais je suis quand même assez interpellé par cette attaque, parce que je me pose la question, mais qu'est-ce qui a pu bien militer pour que ces troupes soient attaquées et par des rebelles ainsi identifiés? J'ai comme l'impression qu'il y a quand même, encore une fois de plus, ce que nous avions toujours décrié à l'époque, c'est la trahison parmi nous. Et lorsque je parle de nous, je vois ici donc les forces armées de la RDC, je vois les groupes armés qui opèrent dans cette partie, mais particulièrement l'action gouvernementale en ce qui concerne la sécurisation à la fois des populations, mais également des frontières de notre pays. Et à ce niveau-là, il se passe bien des choses. C'est pour cela que je me pose la question, pourquoi ne pas s'attaquer aux autres nationalités, seulement au casque bleu de la Tanzanie? Parce que cette force, c'est une brigade spéciale. Et cette brigade, différemment des autres, elle a été amenée à ce niveau-là parce qu'il y a eu beaucoup de cas de récidive d'infiltration de ces rebelles et que il me semble que le travail abattu par ces troupes tanzaniennes était remarquable. Et qu'aujourd'hui, ici chez nous, on a comme l'impression que la question de la paix ne préoccupe pas tellement le gouvernement dans l'idée qu'il faut finalement taire toutes ces rébellions qu'on signale dans cette partie de la RDC pour que finalement notre pays connaisse la paix véritable qui sera mise au profit de notamment toutes ces questions que l'on se pose, la question électorale, la marche normale du pays et tout cela. Mais parce qu'en fait, on a comme l'impression que s'attaquer à ces troupes, ça sera affaiblir davantage l'action des casques bleus. Alors, aussi, je me pose la question et j'essaie de lier le fait, en attendant bien sûr que cette enquête n'arrive. Lorsque le tout nouveau secrétaire général des Nations Unies est arrivé, il y avait déjà une intention au niveau du gouvernement de fixer un délai pour les troupes des Nations Unies, donc leur présence dans notre pays, et donc ces troupes devaient partir. Et que lui, quand il est arrivé, ayant fait la lecture rapide de la situation sécuritaire dans notre pays, il a estimé qu'il y avait encore du travail à faire, et donc la question du départ des troupes...
Et donc on lui donne raison.
Alors est-ce que, je me pose la question... Avait-il vu loin ou alors il avait des meilleures informations? Et donc aujourd'hui, il a raison. Et donc, le gouvernement me semble négliger cet aspect des choses. Et aujourd'hui, ce qui arrive confirme effectivement qu'il y a des problèmes dans notre pays et qu'il faut à tout prix le régler.
Ok, Nico Faye, Mikaï, journaliste et collaborateur au groupe de presse Le Monde et Top Média apparaissant ici à Kinshasa. 14 casques bleus et 5 soldats FRDC tués. Et ces bilans très lourds, vous l'attribuez à quoi? À la capacité de résistance de ces rebelles ADF ou à la surprise, n'est-ce pas, de cette attaque? Parce que c'était une attaque surprise.
Oui, vous savez, Guy, j'ai toujours dit que non, est-ce que faut-il continuer à parler de rebelles? Mais comment voulez-vous que les gens que vous appelez rebelles n'osent pas commettre des crimes ou bien des incursions dans l'état où ils sont rebelles, préfèrent commettre les crimes dans un état tiers et vous continuez à les appeler rebelles? Il y a problème à ce niveau-là.
Je crois... Et le terme approprié à votre avis, c'est...
Non, le terme rebelle n'est pas approprié. Un rebelle, c'est qui? C'est quelqu'un qui refuse l'ordre établi. Mais lorsque vous dites que non, ce sont des rebelles ougandais, ils refusent l'ordre établi en Ouganda ou bien au Congo Kinshasa. Puis j'ai les groupes Kamwenansa pour les ADF, il faut juste les qualifier de groupes terroristes, point barre.
Alors, ce lourd bilan, vous l'attribuez à quoi?
Non, écoutez, ce sont des terroristes. Vous savez, lorsque j'ai qualifié ces groupes terroristes, certains fanatiques m'ont taxé de tous les mots. Mais écoutez, un terroriste, c'est quelqu'un qui a comme mission de semer la terreur, point barre. Les gens pensent qu'on a commencé à parler du terrorisme des kamikazes dans le monde arabe. Non, on a commencé à parler de kamikazes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Une spécie. Le terroriste n'a pas des objectifs très bien clairs, n'a pas des objectifs classiques. Ici, l'objectif, c'est quoi? Semer la panique, semer la terreur dans les chefs de celui qu'il qualifie, lui, d'ennemi.
Alors, comment vous réagissez à l'analyse plutôt de Innocent Kabukala qui estime et qui soupçonne qu'il y aurait une sorte de trahison, n'est-ce pas, de la part de certains Congolais?
Non.
Dans cette attaque.
Écoutez, évitons toujours de chercher. Écoutez, quel est cet État aujourd'hui qui est épargné par les terroristes? Même Washington, l'unique et la seule hyperpuissance au monde. On s'était résolu au terrorisme parce que, premièrement, c'est un ennemi invisible. Un ennemi que vous ne savez pas dénicher. Un ennemi qui est confondu dans la population civile. En ce moment-là, une seule personne, deux personnes, trois personnes peuvent semer la terreur. C'est ainsi que, ici, ça ne sert à rien de continuer à parler toujours de complicité, de traîtrise. Je ne pense pas que ce sont des gens sans cœur qui ont comme mission semer la terreur, point barre.
Merci Luc Malembe, correspondant de l'AFP à Bounia et directeur général du site web Bounia Actualité.com. Comment dans Bounia Actualité.com vous avez analysé cette information faisant état de l'attaque de la base de la MONUSCO à Beni jeudi de la semaine dernière?
Oui, Dimanche, je ne partage pas en tout cas le point de vue des deux confrères par rapport à cet assassinat, parce que moi je suis dans la région. Je rappelle que l'Ituri fait frontière avec le Nord Kivu. Et moi, je suis à Bounia et Beni, c'est à plus d'une centaine de kilomètres. Donc, je suis dans la région. D'abord, je condamne comme tout le monde cet assassinat qui a coûté la vie à 5 FARDC. Je commence par là parce que ce sont mes compatriotes. Et aussi 14 soldats du contingent tanzanien de la brigade d'intervention de la MONUSCO. Et je condamne également les faits, parce que je sens comme si les médias n'en ont pas beaucoup fait mention, le fait qu'il n'y ait pratiquement aucun officiel congolais présent à la cérémonie d'hommage qui a été rendue à Béni aux 14 tanzaniens de la brigade d'intervention de la MONUSCO.
Bon, il y a quand même des officiers militaires.
Un seul officiel congolais.
Il y a quand même des officiers militaires.
Je sais qu'il y a eu le général Michelier, mais c'est pas un officiel au vrai sens du terme. Le président Kabila a préféré ce jour-là inaugurer un bâtiment construit par la Chine, où il n'y a pas eu pratiquement un seul sou du Congo. Le même jour, il y a le ministre de l'Intérieur, Emmanuel Shadary, qui revient de Kigali, où il conduisait une forte délégation et qui a regagné Kinshasa via Goma, sans même essayer de faire un tour à Beni du Maté. C'est quand même grave. Et là, ces soldats sont morts pour la paix chez nous et qu'aucun officiel congolais n'a y aller, ne serait-ce que pour présenter ses condoléances, c'est quand même grave. Alors, je vais maintenant aborder la question. Par rapport à cette attaque, je disais que moi, je ne partage pas le point de vue de deux confrères. Pourquoi? Parce que, d'abord, toutes les sources dans la région du Maté, on a parlé de plus de 70 corps des affaires qui ont été trouvés sur le lieu de l'attaque, sur le port Sumiki, axe Mbao Kamangou. Mais jusqu'à présent, du Maté, aucun corps n'a été ramené à Béni à Ouïtia. C'est très contraire à la coutume. Chaque fois qu'il y a eu des cadavres des ADF dans cette région, eh bien, l'armée les a toujours ramenés soit à Béni, soit à Ouïtia pour des enquêtes. Mais aujourd'hui, aucun corps, en tout cas si ceux-ci ne sont pas bons, aucun corps jusque-là n'a été vu par à Béni ou à Ouïtia. Aussi, le mode opératoire du Maté, hein, le mode opératoire, je rappelle qu'il s'agit de la brigade d'intervention de la MONUSCO qui a été attaquée. Ce n'est pas n'importe quelle brigade du Maté. C'est une brigade bien équipée, bien renseignée. Et donc, que 14 personnes sont mortes. Je comprends que, bon, on va me dire que ce sont des terroristes qui croient, ils ont tendu une embuscade, d'accord. Mais je vous rappelle qu'au moment où ils tendaient l'embuscade, au même moment, une autre brigade de l'unité est allée attaquer le camp de ces Tanzaniens, coupant toute la communication. Ce qui a rendu difficile la communication entre les unités attaquées et les autres qui pouvaient leur venir en aide. Et okay. Puis, il faut rappeler que la veille de cette attaque, il y a une réunion qui s'est tenue dans la ville ougandaise de Marara, qui a regroupé des officiels du Nord qui viennent et des officiels ougandais, et où les Ougandais auraient offert leur volonté, ils auraient exprimé leur volonté de déployer leur armée dans la région pour aider les FARDC.
Merci, Luc.
Voilà. Et donc, que l'Ouganda propose de ramener ces troupes ici, et qu'au même moment, il y a attaque les Anglais sur le continent tanzanien, moi, franchement, je ne suis pas d'accord que cette attaque soit menée par les ADF. Je ne partage pas ce point de vue.
Merci,
mais
Luc.
Également, je ne pense pas que ce soit le FARDC qui aurait mené l'attaque. Moi, plutôt, je crois que ça doit être une intervention d'une armée étrangère, soit ougandaise, soit rwandaise, et surtout l'armée rwandaise, c'est celle que je pense beaucoup lorsque je sais qu'il y a de la tension qui existe entre dans les relations entre le Rwanda et la Tanzanie au sujet du dossier congolais.
Merci Luc. Innocent Kabuka, là, beaucoup de questions, n'est-ce pas, comme vous l'avez relevé. Et tout de suite après cette attaque, l'on a attribué, n'est-ce pas, cette attaque au présumé ADF. On a dit une fois de plus présumé ADF. Donc, les mystères demeurent. Une fois de plus, il se pose un problème d'identification des véritables assaillants. Vous avez suivi Luc Malembe, qui parle même des cadavres de ces ADF qu'on a jamais vus. Comment vous expliquez cette difficulté que tout le monde a à pouvoir identifier les vrais assaillants de toutes ces attaques?
Mais c'est pourquoi d'ailleurs lui, notre confrère, qui est notre confrère Malembe, dans son intervention, moi je l'attendais à ce qu'il nous donne des éléments de contradiction, parce qu'il a dit qu'il n'était pas d'accord avec nous, mais je n'ai rien senti. Mais sinon, dans son analyse, il soupçonne comme moi, et donc il conforte ma position, parce que pour l'instant, nous attendons tous les conclusions de l'enquête qui doit avoir déjà commencé. Et donc, C'est pour cela que tout à l'heure j'ai parlé de tous ces questionnements qui, moi, à mon avis, me ramènent à penser que quelque part, il y a des gens qui connaissent cette vérité et qui sont en train d'opérer contre la République démocratique du Congo. Je vais prendre un fait pour établir une espèce de parallélisme qui pourrait peut-être aussi nous éclairer, mais bien sûr, en attendant cette enquête, vous avez suivi le récent rapport de Human Rights Watch au sujet de la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Et le rejet de ce rapport par notre ministre, je crois, des droits humains, Mouchopé quoi, si je ne me trompe pas, vous allez comprendre que lorsque, dans la déposition des experts de cette organisation, parce que ici, tout le monde, je crois que vous avez des membres au sein des forces armées, des membres de famille, des connaissances et tout ça, mais on oublie souvent que tous ces militaires font partie également de la population, indépendamment de leur travail. Ils ne sont militaires que parce que c'est un service qu'ils ont choisi pour défendre donc la patrie. Mais quoi qu'il arrive, ils font également partie de la population. Ils connaissent les mêmes problèmes que nous et d'ailleurs, dans la plupart des cas. Moi j'ai des membres de famille au sein de ces forces armées et je vois à quelle hauteur je contribue pour leur survie. À un moment donné, les mêmes problèmes que nous connaissons, ils les subissent. Et que quand on en arrive, lorsqu'il y a des manifestations pour réclamer le changement, mais ce sont ces gens-là qu'on envoie sur le terrain pour pouvoir bloquer, contenir ces manifestations. À un moment donné, on s'est dit que ces gens ne sont plus à mesure de faire ce travail parce qu'ils en ont aussi ras-le-bol, parce que ceux qu'ils tuent, c'est leurs frères et tout ça. C'est ce qui peut justifier effectivement ces gens qui avaient été recrutés parce que eux, c'est sans cœur, parce qu'on a suivi dans le bout de cette même interview, ces gens-là, ils ont fait ce travail très facilement parce que à la fin, ils ont des postes, ils ont tout cela. Merci. Donc, c'est ce qui signifie, c'est ce qui me fait croire que c'est réellement des actes de traîtrise, des actes de sabotage pour pouvoir affaiblir l'action des troupes de la MONUSCO de manière à ce que la situation d'insécurité puisse demeurer et justifier par la suite cette volonté qu'on a toujours de pouvoir rester le plus longtemps possible au pouvoir. Et merci. Je réponds en une seconde à Nico. On ne va pas rester dans les définitions de l'école pour dire qui est rebelle et qui ne l'est pas, où il y a un problème de mobiles d'ambition. Mais les ambitions, que celui qui fasse un travail de terrorisme, il a toujours quelque chose qu'il revendique. Parce que par la suite, il y a toujours soit des écrits, soit un précédent qui fait qu'il puisse s'adonner à un acte de terrorisme pour pouvoir obtenir un bénéfice quelque part.
Nico Efraï Mbikaï, vous avez suivi le gouverneur du Nord Kivu qui propose qu'au-delà des opérations militaires, la question du ravitaillement des ADF soit prise en compte. Qui ravitaille aujourd'hui ces rebelles et par quels moyens? Ça, c'est une question sur laquelle les gens doivent s'épancher en principe.
Oui, avant d'en arriver, j'aimerais d'abord vous poser la question. Si ces gens-là, vous continuez à les appeler rebelles, mais quelle action mènent-ils contre leur état d'origine?
Nico Faye, le problème, ce n'est pas dans l'appellation rebelle ou pas rebelle, ils sont en train de poser des actes qui préjudicient l'intérêt national. Alors, aujourd'hui, la solution, c'est quoi aujourd'hui?
Écoutez,
lorsque le gouverneur lui pense qu'il faut se pencher sur la question du ravitaillement de ces rebelles.
Non seulement question de ravitaillement, c'est-à-dire il y a toute une pile de mesures qui doivent être prises. Il faut que d'abord qu'on arrive à sécuriser les personnes et leurs biens et songer maintenant à faire des monographies profondes pour savoir qui est à la base de cela, qui les finance et pour quelle finalité. Parce qu'il faut toujours arriver à se poser la question. À qui profitent ces crimes?
Voilà.
Et pourquoi on continue à poser ces crimes dans les territoires congolais? Est-ce que vous pensez que non, le rebelle ougandais ont intérêt à poser terreur, désolation au Congo qu'au lieu d'aller poser terreur, désolation dans leur état d'origine? C'est-à-dire, il faut d'abord élaguer cette mauvaise appellation de rebelle ougandais. C'est-à-dire, ces gens-là peuvent avoir des mobiles, soit des motivations congolo-congolaises. Et quoi alors? Si, après avoir fait une étude profonde, en ce moment-là, on peut voir dans quelle mesure on peut les juguler. Mais certes, ce qui est difficile est que souvent difficile de mettre un terme ou soit de minimiser les actions des terroristes.
Merci Luc Malembe. Il y a aussi la question de l'implication des puissances régionales dans la lutte contre ces rebelles de l'ADF. Il faut une sorte de synergie selon certains experts. On se rappelle comment la synergie des États avait abouti à la déchéance de puissance de l'axe en 1945, comment une prise de conscience des États avait suffi, n'est-ce pas, pour réussir à démanteler le M23, et pourquoi avec les rebelles de l'ADF, les États de la région n'arrivent pas à mettre en place une sorte de synergie pour défaire ces rebelles.
Oui, avant de répondre, je voudrais dire à mon confrère Innocent Kabitala que oui, là où j'ai semblé ne pas être d'accord avec lui, c'est lorsqu'il semblait attribuer, comme beaucoup d'ailleurs, cette attaque au FARDC. En tout cas, à ce stade, nous n'avons pas d'éléments suffisants qui puissent nous amener à croire que ce soit des militaires.
Luc Malembe, c'est quoi la solution aujourd'hui? C'est quoi la solution aujourd'hui? Alors, la solution adéquate?
Alors,
l'implication des États de la région.
Il ne faut pas aller qui parle de la dénomination même qu'il faut revoir de ces ADF. On ne peut plus, c'est vrai, continuer à les appeler des ADF tant que c'est chez nous qu'ils causent des problèmes. Alors, vous avez parlé de la dynamique régionale qui tarde à venir. Et donc, ça se justifie parce que justement, notre propre régime, le régime en place au Congo, semble être pour beaucoup dans ce qui se passe à Béni. Et donc, est-ce que le régime aujourd'hui a imploré que la crise de Béni connaisse un terme? Voilà toute la question. Parce que si vraiment le régime de Kinshasa voulait la fin des massacres qui se passent chaque jour à Béni, le régime connaît bien la solution, mais il n'a jamais voulu s'aborder.
Merci.
Et donc, on ne peut pas continuer à attendre la solution venue du même régime qui est pour beaucoup dans ce qui se passe à Béni.
Merci Luc.
Peut-être qu'il va falloir attendre la chute de ces régimes pour envisager la solution.
Merci. Notre deuxième thème de ce soir, le Sénat a déclaré recevable le projet de la loi électorale et l'a envoyé à la commission politique, administrative et judiciaire pour toilettage. Les divergences persistent toujours sur trois points, à savoir les seuils d'éligibilité, la caution et la machine à voter. Le Sénat a déclaré recevable ce mardi en plénière le projet de la loi électorale très controversé. Dans sa réplique aux multiples demandes des sénateurs de rejeter ou geler ce texte, le vice-premier ministre de l'Intérieur a affirmé que ne pas examiner ces textes signifie approuver un nouveau report des élections. Pour Emmanuel Chadari, la disposition portant sur les seuils de représentativité nationale est l'œuvre de l'Assemblée nationale et non du gouvernement. La Chambre haute du Parlement devrait, d'après lui, s'assumer en toute responsabilité pour rendre ces textes potables. Il est au micro de Michel Kifinangoy.
Le gouvernement a parlé du seuil à 3%, pas au niveau national, au niveau de la circonscription. Et l'Assemblée nationale a adopté ce texte et ils ont mis 1% au niveau national. La balle est dans votre camp. Il ne faudrait pas que la CENI dise qu'il n'y a pas eu élection parce que ce n'est pas la loi. Nous ne devons pas continuer à flouer continuellement le peuple en reportant encore les élections déjà prévues par la CENI en décembre 2018 en bloquant une loi qui est si simple. Si vous trouvez qu'il y a des dispositions prévues par la Chambre sœur et qui énervent les honorables sénateurs, il faut les enlever en commission. Revoir les taux de caution à la baisse, comme vous l'avez proposé ici. Faites-le. Comment on peut aller aux élections avec une machine à frauder? Il faut dire ça aux députés et non pas renvoyer au mois de mars. C'est dangereux. Si le seuil n'est pas intéressant, discutez avec eux. Et après ça, je parle, le reste doit faire l'objet des contacts politiques d'une chambre à l'autre.
Nico Faimbikaï, la tempête des tropiques, le quotidien, a titré sur sa manchette « Loi électorale, le passage en force de Kengo ». Est-ce que vous partagez cette opinion?
Je ne partage pas cette opinion. Je ne sais pas ce que la consoeur entend par « passage en force de Kengo ». Et souvent, dans votre pays, vous avez l'habitude de personnifier les affaires. Ici, c'est l'affaire Sénat. Ensemble et ne pas Kengo, Minaku, non, c'est l'affaire des institutions de l'État. Mais ici, vous les Congolais, vous avez une très mauvaise habitude. Vous avez toujours cherché à guérir et non pas à prévenir. Et en plus, au sein d'où nous sommes, moi j'estime que ce débat c'est un débat d'arrière-garde, dans la mesure où, si vous interrogez la Constitution, qui est la mère des lois, à son article 113, dispose quoi? Si une matière est déjà traitée par l'Assemblée nationale, qu'elle passe au niveau du Sénat, le Sénat, s'il n'adopte pas le texte dans les termes identiques, on doit envisager une commission paritaire, et si la commission paritaire n'y a pas accord, c'est la version de l'Assemblée qui l'emporte. Mais in specie, si l'Assemblée a déjà voté et qu'au niveau du Sénat et que la loi même est déclarée recevable, vous ne voyez pas que non, parfois le débat qu'on engage aujourd'hui, c'est un débat qui aurait dû se tenir en amont et non à posteriori. Est-ce que pensez-vous que non, s'il faut s'en tenir à la Constitution, et que vous pensez que non, tout ce que nous sommes en train de dire sur le plateau, est-ce que ça peut avoir une influence sur une matière?
Nico Faye, vous rappelez que M. Léon Kengo Adondo, qui est président du Sénat, a envoyé le texte des lois à la commission PAJ sans l'avoir soumis au vote pour savoir si le texte serait jugé recevable ou pas. Et je pense que c'est ce qui fait dire à notre consoeur, la tempête des tropiques, qu'il y a eu passage en force de Kengo.
Et bon, si on a eu enjambé une étape, ça c'est anormal. Mais est-ce qu'on a eu à enjamber l'étape? Et que si l'affaire est envoyée à la commission PAJ du Sénat, on va traiter et qu'après, on va revenir soit à la plénière et puis la plénière va donner son point de vue. Mais ici, c'est comme si nous cherchions à donner déjà la solution à un problème qui a déjà la solution. Quelle vaut la version du Sénat par rapport à la version de l'Assemblée nationale? Il ne faudrait pas parler état de droit, il ne faudrait pas parler démocratie, mais sans respecter les tests du pays. Il ne spécifie que la version du Sénat, qu'elle soit contre ou pas, mais c'est la version de l'Assemblée qui va l'emporter. C'est pour cela qu'il faut éviter les erreurs du passé. J'ai toujours défini la démocratie comme étant la dictature de la majorité. Ici, c'est la majorité qui fait sa loi au nom de la démocratie pour laquelle les gens sont morts.
Merci, Innocent Kaboukala. Le potentiel lui dit loi électorale révisée. Kengo sauve les apparences et envoie les projets en commission.
Bien sûr. Et moi je comprends bien. Ici, allusion d'ailleurs, on fait à ce qui s'est passé l'année dernière lorsqu'on s'est retrouvé dans les mêmes conditions avec la loi électorale qui devait être
en janvier 2015.
En janvier 2015. Et que la position du Sénat avait eu un impact, on va dire, positif dans la population, alors que ça grognait là dehors et que tout le monde, il fallait à tout prix trouver une solution. Et là, tout le monde avait le regard sur le Sénat, et le Sénat avait calmé le jeu dans une certaine mesure parce qu'on a fait passer cette tempête qui était déjà là pour bloquer la population plus tard.
Et donc il faut rappeler que à ce moment-là, il y a un facteur qui n'existe pas aujourd'hui, c'était la pression de la rue.
Mais bien sûr. Mais c'est cela, c'est de ça que je parle. Donc, à ce moment-là, il fallait tromper la vigilance de la population en essayant de mettre un frein sur cela et trouver d'autres subterfuges. Par la suite, c'est ce qui s'est passé, c'est comme ça qu'on n'a pas eu les élections. Parce que là, c'est en fait, le problème c'était lequel? C'est que s'il fallait aller aux élections, il fallait aller avec une loi qui était dans une certaine mesure quelque chose qui était déjà un acquis pour la majorité, alors que l'opposition voulait à tout prix avoir une autre loi et qui lui permettrait à elle, alors cette fois-là, de peut-être de prendre de l'avantage sur la majorité. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un contexte un peu différent, mais avec pratiquement le même souci dans le chef des faiseurs d'opinion. Ici, je vois l'opposition principalement. C'est pour cela que l'opposition a même contesté. Il y a même une marche des députés de l'opposition pour demander, pour influencer dans une certaine mesure les sénateurs. Mais cette fois-ci, Kengo, il n'a pas tergiversé. Il a tout simplement jugé qu'il était plus facile de passer outre une étape, de sorte qu'on puisse aller vite. Et parce que, comme disait tout à l'heure Nico, on va se retrouver dans les méandres de textes qui vont justement ramener la raison de la version qui vient de l'Assemblée nationale. Et c'est ce qui va aller. Alors, donc, ce qui nous inquiète, moi personnellement, c'est le fait que pourquoi, à ce moment précis, à chaque fois, lorsqu'on parle des élections, lorsqu'il y a une prévision pour les élections, pour aller de l'avant, il y a toujours quelque chose qu'on amène pour pouvoir bloquer. Parce que là, les trois points qui fâchent le chef des illimités, là, c'est déjà un problème. Même si nous creusons bien, le problème, c'est pas un faux problème. On peut bien le poser. Mais est-ce que sommes-nous vraiment suffisamment informés? Est-ce que le moment est-il vraiment indiqué pour que l'ensemble de la population adhère à une telle situation, alors que
Alors que ici la priorité serait les élections, parce que d'autant plus, d'abord ici il y a encore un autre problème.
Donc, il y a un problème d'opportunité.
Voilà, nous avons. Est-ce que je peux terminer?
Nico, vous allez rester.
Je peux terminer. Alors, dans le chef, dans l'idée, dans la pensée de la population, avec une bonne partie de l'opposition, c'est que les élections devaient se tenir au plus tard le 31 décembre 2017. Et dans ce contexte-là, est-ce que si on amène, parce que c'est comme ça qu'eux réfléchissent. Mais si nous ramenons les choses dans l'idée que nous irons vers 2018, on va dire, bon, peut-être qu'on va préparer la population, on va donner suffisamment d'éclairage et que cette population pourrait être disposée à faire ça. En dehors de cela, la machine elle-même, qu'est-ce qu'on sait de cette machine? Il n'y a pas encore jusque-là d'explication. Tout ce qu'on dit, la théorie, c'est que cette machine à voter, elle vous donne tel avantage et tel autre avantage. Mais est-ce qu'on a posé le problème de la manipulation de cette machine? Est-ce qu'on a posé le problème connexe à la logistique? Toutes ces questions ne sont pas encore posées. Alors, c'est des inquiétudes qui peuvent faire que aujourd'hui les gens se méfient, d'autant plus que pendant le cours, on ne peut pas modifier donc les règles du jeu.
Nico a demandé la parole, lui. Il réagissait rapidement avant qu'on donne la parole à Luc Malembe.
Ici, nous devons comprendre la logique du système. Et en plus, chercher toujours à poser la question, la problématique de l'opportunité. Ce n'est pas à nous aujourd'hui qui devons juger cette opportunité. C'est pour cela qu'il faut se battre quand il faut se battre. Il faut dire aux politiciens de se battre pour être majoritaire à l'Assemblée. C'est là où se joue le jeu. Comment voulez-vous qu'il y ait un débat qui a eu au niveau de l'Assemblée, vous quittez l'hémicycle, vous videz l'hémicycle, vous allez mener dans la rue en train de crier.
On a compris.
Cette gesticulation-là profite à qui?
Luc
il faut Malembe. Savoir jouer le jeu pour à empêcher à l'adversaire d'atteindre l'objectif. Vous me savez, 30 secondes. Vous aimez beaucoup souvent évoquer le cas du 15 janvier 2015. Vous savez, moi, je me dis, mais oui, Kengo avait bloqué. L'idée, maintenant, c'était que non, comme on conditionnait la tenue des élections par le recensement, et que si que on attendait le recensement, on va déboucher au glissement. Mais aujourd'hui, ne sommes-nous pas dans le glissement? C'est que la majorité n'a pas eu par la main gauche, elle en a eu par la main droite.
Merci, Luc Malembe. Luc Malembe, vous n'avez pas été surpris par l'approche de Kengo, parce que après que la loi a été adoptée à l'Assemblée nationale sur au fond des contestations, l'attention était focalisée sur le travail des sénateurs et certaines personnes s'attendaient à ce que ces textes soient rejetés par les sénateurs, parce qu'il y a même des ministres qui n'ont pas reconnu ces textes. C'est un texte qui était considéré comme étant un faux et les gens s'attendaient à ce que les sénateurs puissent le rejeter, mais c'est le contraire qui s'est produit. Vous n'avez pas été surpris par l'attitude des sénateurs?
Bon, pas vraiment une surprise du matin. D'ailleurs, pas plus tard que ce jeudi, j'ai eu un entretien avec le vice-président de la CENI, Norbert Bakenyezi, qui était de passage ici à Bounia. Et nous avons eu à échanger sur le contenu même de cette réforme. Il faut rappeler qu'il s'agit de 7 points qui connaissent une réforme dans cette loi. Mais bien sûr, l'opinion ne revient que sur les trois emblématiques, notamment la caution, le problème du seuil et aussi le problème de la machine à voter. Alors, personnellement, je crois que le confrère Nico Faye a raison. Il faut que les gens apprennent à se battre, ça, ils vont se battre parce que tout se joue au niveau du Parlement. Si la majorité estime qu'en modifiant la loi de telle manière, elle va se regarder ses intérêts, eh bien, nous sommes en démocratie, malheureusement, elle va le faire. Et donc, aussi, si le Sénat avait bloqué la loi en 2011, c'est pas qu'il y avait la rue. Actuellement, s'il n'y a pas la rue, certainement qu'il ne fallait pas se faire des illusions. Le Sénat ne va pas peut-être bloquer la loi, elle va passer, parce que justement, la Constitution prévoit que même si le Sénat le rejette, à la fin, c'est le point de vue de l'Assemblée nationale qui va primer. Donc, il va falloir que les gens se battent et qu'ils soient majoritaires prochainement à l'Assemblée, et parce que tout se joue là-bas, tout ne se joue pas nécessairement dans la rue. Mais ce qui est sûr, je partage les inquiétudes de tout le monde qui se croit un emblématique, notamment sur le seuil de représentation des partis politiques, évidemment sur la caution. Parce que jusque-là, je n'entends pas la place qu'on réserve finalement aux candidats indépendants. Tout le monde n'est pas obligé d'appartenir à un parti pour diriger ou pour concourir aux élections. Et donc, je vois mal un candidat indépendant dans un village, même s'il est populaire, qui va réunir $1000 de caution d'abord, et qui a très très moins de chance finalement par rapport à cette loi.
Merci.
Donc, c'est comme si on veut nous réduire au parti unique, on veut forcer tout le monde à entrer dans le parti qui sont au pouvoir,
pour se faire des moyens et pour continuer à exercer la
Merci,
politique,
Luc.
Ce qui est très grave. C'est un recul et donc je partage l'inquiétude de tout le monde. Et là-dessus, nous devons le combattre.
Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à Ritier Sidiakala qui était à la technique, à Alain Irung qui a réalisé et coordonné cette émission sous la supervision de Pélé Kipela Mondo, à la présentation Guy Maté. Merci à la semaine prochaine pour un autre numéro de Tribune de la Presse et bon week-end sur Radio Capi.